intéressant. Alors nous sommes à Colmar en Alsace. Vous venez de donner une conférence avec Pierre-Antoine Plaquevent. Comment ça s'est passé?
Le public était très attentif. Et moi, quand je parle à des gens, ce que je souhaite, c'est susciter chez eux une réaction. C'est qu'ils s'impliquent dans ce que je décris. Et j'ai l'impression que ce public n'acceptera pas de subir ce qu'on lui présente. Donc je suis content de cette conférence.
Entendu. En général, le public qui vient à ER est conquis.
Oui.
Mais je trouve que vous avez fait preuve de beaucoup de pédagogie. Alors, en préambule aux questions que l'on va vous poser, pourriez-vous rapidement vous présenter et évoquer votre parcours personnel et professionnel?
Moi, je suis issu d'une bonne famille bordelaise. J'ai fait des études de sciences politiques. Je me suis fait virer de l'Institut de Sciences Po, d'ailleurs. J'ai fait plein de choses. J'ai été journaliste et écrivain, ce que je suis toujours. Je n'ai jamais touché de contribution pour mes activités politiques. Mais en même temps de mon travail de journaliste et d'écrivain, j'ai été conseiller politique de différents États et de différents chefs d'État.
Merci. Donc à travers votre long parcours de militant, on observe une évolution de vos engagements politiques. Et j'aimerais revenir avec vous sur trois périodes significatives.
Oui.
Alors la première est celle de vos premiers combats, où vous luttiez contre les discriminations fondées sur la sexualité via le projet Ronicard, et la volonté de faire reconnaître légalement l'homosexualité.
Non, c'est pas tout à fait ça. L'homosexualité est... Il n'y avait pas de texte sur l'homosexualité. Ce pourquoi je me suis battu, c'est pour qu'il n'y ait plus de loi qui favorise les gens qui ne sont pas homosexuels. C'est différent.
Justement, aujourd'hui où les questions de genre, de transsexualité sont élevées comme des modèles de société, où la priorité éducative de nos élites et l'éveil sexuel de nos enfants, voire encore les annonces de Gabriel Attal récemment. Quel est votre regard sur ces sujets et le pouvoir LGBT?
Quand j'étais président du projet Ornicard, je me suis déjà heurté à cette idéologie. Et le conflit est intervenu quand on a parlé de la situation des couples gays. Donc, l'idéologie qui a triomphé, c'est celle de ces gens-là, qui a abouti au mariage homosexuel. Moi, j'étais contre le mariage homosexuel. J'étais contre parce que je pense que c'est une régression sociale. Je pense que... J'explique, hein, je ne dis pas que les gens qui se sont mariés, c'est pas bien. Je dis qu'il fallait faire autre chose. À mon sens, ce qu'il fallait faire... c'était retirer de la loi tous les privilèges qui sont accordés selon le statut marital. Il fallait qu'on soit égaux. Ce que vous faites dans votre lit, ça ne regarde pas l'État. Aujourd'hui, j'ai les allocations familiales, par exemple, ou les impôts qui me demandent avec qui je vis, ça ne les regarde pas. Donc... Du coup, je perds volontairement des avantages que j'aurais si j'étais paxé ou marié. Mais c'est une question de principe pour moi. Et je pense que dans la société, les choses seraient bien plus simples si le mariage était une affaire privée et ne concernait pas l'État. Voilà. Et à l'époque, j'avais obtenu le soutien de l'Église de France dans mon combat. Mais c'est le Parti Socialiste qui a imposé sa vision. Et le Parti Socialiste a imposé cette vision parce que, aux États-Unis, Bill Clinton avait gagné son élection de manière un peu surprenante, mais en, grâce au, soutien qu'il avait obtenu de, la communauté homosexuelle aux États-Unis. Sauf que le problème des homosexuels aux États-Unis et, en France, c'est complètement différent. Ce n'est pas du tout les mêmes lois.
D'accord. Alors, merci pour l'éclairage. Par la suite, vous gagnez progressivement une notoriété publique. Vous êtes invité régulièrement sur les plateaux TV. Et le tout Paris médiatique et journalistique n'a plus vraiment de secret pour vous. C'est à cette époque, je crois, que vous rencontrez Emmanuel Ratier, qui est alors à l'opposé de votre bord politique. Pouvez-vous nous dire quels étaient vos rapports et dans quelles circonstances alors, vous êtes-vous rencontrés?
À l'époque, je publiais une, lettre hebdomadaire sur la biographie de nos dirigeants. Et donc, j'ai révélé des choses absolument invraisemblables, notamment sur les liens familiaux et, économiques des uns et des autres. Emmanuel Ratier s'intéressait au même sujet. Mais à ses yeux, j'étais un adversaire. Il a donc écrit un livre contre moi. Et puis, à force de me lire, il s'est rendu compte que je n'étais pas comme ce qu'il imaginait. Et donc, c'est lui qui m'a proposé de le, rencontrer, ce que j'ai accepté. Et j'ai découvert que lui n'était pas non plus comme moi, je l'imaginais. Et finalement, nous sommes devenus amis. Et nous refilions des tuyaux l'un l'autre, oui.
D'accord. Quelle fut la participation de Ratier dans vos recherches sur les attentats du 11 septembre?
Ça, j'ai mené ça tout à fait de mon côté. Mais lui aussi a mené une recherche de son côté, mais on ne sait pas... J'ai pas souvenir qu'on se soit échangé des choses là-dessus. Il publie au fur et à mesure, et moi au fur et à mesure. Donc voilà, on se lisait mutuellement, mais on n'a pas eu de, on n'a pas fait de travail commun là-dessus.
D'accord. En raison de nombreuses menaces sous la présidence de Sarkozy, vous décidez de vous exiler en 2008 au Liban, puis en 2012 à Damas en Syrie.
En fait, je suis allé d'abord en Syrie, quelques mois, puis au Liban, puis en Iran, puis en Libye, puis à nouveau en Syrie. Enfin, c'est compliqué.
Vous êtes revenu en France depuis peu, le climat semble apaisé. Et vous soulignez qu'Emmanuel Macron n'est pas adepte des assassinats politiques comme ses prédécesseurs. Pensez-vous qu'un Sarkozy ou un Hollande, encore présents politiquement, peuvent vous nuire par leur réseau d'influence? Craignez-vous un changement d'attitude aux prochaines élections présidentielles si Marine Le Pen est élue?
Alors, Nicolas Sarkozy... Moi, je ne le connais pas, mais je constate que c'est un homme qui a beaucoup évolué et qui, au cours même de, son septennat, a évolué tellement que il a signé une paix avec la Syrie, on ne le sait pas ici, mais il a signé une paix avec la Syrie et j'ai participé à négocier cette chose-là. Donc, moi, je lui pardonne tout ce qu'il a fait avant parce que je trouve qu'il a, renversé la vapeur à un moment donné. Maintenant, voilà, tout ça s'est arrivé trop tard. Il a été remplacé par François Mitterrand, que je connaissais comme premier secrétaire du Parti Socialiste. Moi, j'étais un des dirigeants du, Parti Radical de Gauche. Donc, ce que j'ai observé, c'est que dès que François Hollande, les jours de son arrivée à l'Élysée, il a relancé la guerre en Syrie. Et il l'a fait en s'alliant avec des criminels de guerre. Je trouve ignoble ce qu'il a fait. Bon, donc pendant sa mandature, je n'ai pas pu revenir, je n'ai pas pu revenir en France. Bon. Emmanuel Macron, j'en pense beaucoup de mal, mais je l'ai dit, je ne crois pas qu'il soit un adepte des assassinats politiques. lui n'a pas donné des ordres d'assassiner. François Hollande s'est vanté d'avoir donné des ordres d'assassiner.
D'accord. Et donc, aujourd'hui, au niveau des menaces, des pressions ?
Non, aujourd'hui, j'ai... je ne vais pas dire que tout va bien, mais aujourd'hui, j'ai toujours des menaces, mais elles ne sont pas émises par l'administration française.
Très bien.
Française.
Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper dans la date. Alors, en 2006, vous vous rendez au Liban, puis en Syrie avec Dieudonné et Alain Soral.
Oui.
Quelles étaient votre motivation à ce moment-là et comment avez-vous été perçu et reçu par ces pays?
Pendant la guerre d'Israël contre le Liban, je ne sais plus qui avait imaginé d'organiser un voyage en soutien aux Libanais. Et donc il avait contacté plein de personnalités et obtenu leur accord. Mais au dernier moment, Israël faisant les gros yeux, les uns après les autres se sont défilés. Et il n'a resté que 6 ou 8 personnes, dont Alain Soral, Dieudonné, moi et quelques autres. Voilà. Donc, au début de ce voyage, Alain Soral a commencé à me tester. Donc, pendant 2 jours, il m'a harcelé. Vraiment, c'était épuisant. Il m'a harcelé sur mon engagement pour l'égalité en droit, quelle que soit l'orientation sexuelle. Et puis au bout d'un moment, il s'est rendu compte que j'étais d'accord avec lui, en fait. Et donc là, nous sommes devenus très bons amis. J'ai apprécié chez lui d'avoir de se poser toujours la question de savoir ce que les gens font et non pas de ce qu'ils disent. Et dans la vie politique ici, c'est extrêmement important. Beaucoup d'acteurs politiques sont totalement différents de l'image qu'ils donnent. Et lui, c'est une des rares personnes que j'ai vu vraiment s'intéresser au fond des choses.
D'accord, merci. Vous évoquiez Jean Moulin qui a réussi, sur la demande du général de Gaulle, à réunir les principaux mouvements de la résistance, notamment l'Action française et les communistes. Dans l'hypothèse d'un revirement politique, sous la pression populaire ou insufflé à travers un mouvement de type gilets jaunes décuplés, voire la colère des agriculteurs, quelles sont, d'après vous, les figures capables de transcender les clivages politiques et incarner le renouveau de la France?
Ah, mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'un dirigeant politique soit capable de ça. Je pense que il faut des gens entiers et que nous n'en avons pas.
Que pensez-vous d'égalité et réconciliation?
Ce que j'en ai vu aujourd'hui m'a paru très bien. Mais j'ai lu des choses horribles. Et voilà, mais bon, je m'attendais, peut-être y aurait-il des swastikas, je ne sais pas trop quoi. Non, pas du tout. J'ai trouvé des gens normaux.
Pouvez-vous nous parler de vos projets en cours?
Je dois réécrire un livre que j'ai déjà écrit, mais que je dois présenter les choses différemment dans un livre sur les liens entre les fascistes, les nazis, les nationalistes intégraux ukrainiens et les sionistes révisionnistes. Voilà, tous les crimes que ces gens-là ont commis dans les 70 dernières années, non pas pendant la guerre mondiale, mais depuis la guerre mondiale. J'ai réuni une énorme documentation là-dessus. Alors, pendant la guerre froide, surtout. Mais on voit, ça recommence aujourd'hui.
Un vaste programme. En dehors de vos activités professionnelles, quels sont les loisirs et les activités qui vous tiennent à cœur?
Alors, je suis à fond dans mon activité professionnelle. Et je n'ai donc pas beaucoup de loisirs. Et sans ça, je m'occupe de ma famille. Voilà.
Merci. Alors, une dernière question. Quel est votre livre de chevet actuellement ?
Alors, si je vous réponds, vous ne pourrez pas l'interpréter, parce que je lis énormément de livres. Je ne dis pas que je les lis de A à Z, mais j'ai besoin de me documenter en permanence. Donc, je ne peux pas passer une semaine sans feuilleter au moins une trentaine de livres. Bon, si je vous dis le dernier qui est sur ma table, ça ne veut rien dire. Il faudrait savoir quelle était la pile qu'il y avait là.
Oui. D'accord. Un dernier mot à rajouter ?
Continuons le combat.
Ben, sur ces belles paroles...
Oh, c'est pas des belles paroles. Mais ok.
Alors, sur cette belle conclusion, ou si elle n'est pas belle non plus, sur cette conclusion, Thierry Messon, je vous remercie d'avoir répondu à notre questionnaire.
À bientôt.
Et à très bientôt.